femme qui est un fort et doux être plein de vie, un bébé qui illustrerait un concours, et je n'ai aucune espèce de force pour jouir de tout cela. Je sais bien que cet état d'âme ne durera pas. Je vais ravoir des espérances, de nouveaux courages. Je vais faire des efforts tout neufs. Si encore ces aveux me servaient. Si plus tard je devenais un grand psychologue. Mais je ne me crois pas en puissance assez de vie. Je mourrai avant l'heure où je me rendrai et je deviendrai un ivrogne de rêverie. Mieux vaudrait casser des pierres, labourer des champs. Je passerai donc ma vie, courte ou longue, à dire « mieux vaudrait autre chose ». Pourquoi ce roulis de notre âme, ce va-et-vient de nos ardeurs? Nos espérances sont comme les flots de la mer. Quand ils se retirent, ils laissent à nu un tas de choses nauséabondes, de coquillages infects et de crabes. De crabes moraux et puants, oubliés là, qui se traînent de guingois pour rattraper la mer. Est-ce assez stérile, la vie d'un homme de lettres qui n'arrive pas? Mon Dieu, je suis intelligent, plus intelligent que bien d'autres. C'est évident, puisque je lis sans m'endormir la tentation de saint Antoine. Mais cette intelligence, c'est comme une eau qui coule inutile, inconnue, où l'on n'a pas encore installé un moulin. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas encore trouvé mon moulin. Le trouverai-je jamais? William et Jules. Ces lignes que vous venez de lire sont extraites d'un passage du journal intime de Jules Renard, daté du 17 mars 1890. Jules Renard était un homme réservé et hypersensible, neurasthénique, comme on disait alors. Après une enfance malheureuse, dont il s'inspira pour écrire son ouvrage le plus connu, Poil de carotte, il connut une certaine notoriété. Mais il ne fut jamais heureux, jamais satisfait de lui-même ni de son existence. Malgré sa lucidité et son talent, malgré l'affection de sa famille et de ses amis, il ne trouva jamais la paix de l'âme. Son intelligence était aussi vive que son estime de soi était incertaine et douloureuse. Renard n'utilisa jamais le terme « estime de soi », qui n'était pas encore en usage dans la langue française. Mais cette même année 1890, de l'autre côté de l'Atlantique, le médecin, philosophe et psychologue américain William James publiait le premier traité de psychologie moderne, « Principles of Psychology », qui lui avait demandé 12 années de travail. Comme le journal de Renard, le traité de James se lit encore aujourd'hui avec plaisir. La plupart de ses remarques sur la condition humaine restent d'actualité. James fut le premier à utiliser et à analyser ce concept de self-esteem. L'estime de soi est de deux sortes, la satisfaction et le mécontentement de soi. Malheureusement, il souffrait de troubles dépressifs sévères qui empoisonnèrent sa vie. Ni William ni Jules ne purent venir durablement à bout de leurs démons intérieurs. Bien longtemps après, l'estime de soi est toujours au cœur de nos existences modernes, quelle que soit notre culture et notre nationalité. Les deux hommes avaient parfaitement pressenti, grâce à leur intelligence et à leur sensibilité personnelle, l'importance qu'elle allait prendre, pour le meilleur et pour le pire, dans notre société. Ce livre leur rend hommage. Introduction. Comment allez-vous? Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Paul Valéry. Nous allons tous très bien et nous sommes tous très contents de nous. Qui a des chances d'aller au ciel? Lorsqu'on posa cette question, c'était en 1997, à l'occasion d'un sondage réalisé aux États-Unis, les personnalités qui obtinrent le plus de réponses favorables furent Bill Clinton, 52%, Lady Diana, 60%, le basketteur Michael Jordan, 65%. Mère Teresa, avec 79%, fut celle qui récolta le maximum de réponses favorables. Le maximum